Gilles. Ce matin, on a une présentation spéciale et je suis très heureux de vous présenter nos invités en réalité. Marc Levasseur, comme vous le voyez sur le bulletin derrière, est celui qui va porter la parole ce matin, mais il va beaucoup présenter le ministère qu'il présente, l'AURA, un ministère auprès des Autochtones, dans des milieux francophones. Et c'est avec lui que travaillent Jean et Monique. Vous rappelez Jean et Monique Couture, qui sont à, je me trompe, c'est Woman Tashi, c'est ça, hein? Je le dis comme il faut. Et ils travaillent sous la responsabilité, ils se sont joints à l'équipe de l'AURA, et ils travaillent sous le chapeau de l'AURA, et ils ont aussi, avec leur aide, beaucoup progressé, été encouragés, et Marc vient nous présenter ce ministère-là, juste à dire un petit coucou, là, vous allez le voir, en fait, un matin, là, Jean puis Monique. Alors, Jean, Monique, on est content de vous avoir, et Marc. Alors, c'est qui vient commencer ce matin pour ouvrir? C'est Marc?
Non, ça, je suis natif de la région de Victoriaville. Ma femme est native de la région de Sherbrooke. On s'est rencontrés à 2000 à Parole des Vies Bethel. On s'est mariés en 2002. Donc, ça fait 8 ans maintenant qu'on est mariés. Je voudrais vous remercier tout le monde qui a prié pour Yakim, mon fils, au mois de novembre, qui a fait un arrêt cardiaque, qui a été opéré au cœur. C'est un miracle, littéralement. Ça a été une période très dure. Ça a été une des épreuves qu'on a vécues cette année. Merci énormément. Je vais sauter tout de suite au ministère comme tel. Je suis venu vous présenter, dans le fond, un ministère que l'Église ici vous supportait déjà, peut-être en le sachant plus ou moins. Mais veut pas, Jean-Monique vient de l'Église ici. Il y a d'autres gens qui sont impliqués, on va en parler plus tard. Les Dana aussi que vous supportez, avec qui on travaille aussi, je vais en faire une parenthèse. Mais ce qui est intéressant... Ça va-tu marcher ici, en avant du... C'est comme un consentant. Bon. Ça, c'est... j'étais en train de sauter. Ça, c'est mes 4 fonctions que j'ai. Je me suis mélangé à cause de la technologie, c'est le fun. Celui d'époux et papa. Ensuite, je suis agent correctionnel dans un pénitencier fédéral, c'est à Côte-Nord. J'assiste Denis et Brigitte Maisonneuve. Y en a-tu qui connaissent Denis et Brigitte Maisonneuve, juste pour avoir une idée? Ah, quelques-uns. Ça, j'assiste Denis et Brigitte Maisonneuve à Ouachat, l'église Inou, c'est à Côte-Nord. Et je suis directeur de l'organisme Renaissance autochtone à grandeur du Québec. Next. Hey, c'est beau. Je vais laisser ça là, me dire ça à toi et fois. On va être mieux demain. On va commencer par un petit sondage pour savoir à peu près c'est quoi votre degré de connaissance des Autochtones. C'est pas pour être méchant avec vous autres ni me payer votre tête. Mais je vais commencer tout de suite avec une affirmation, puis on va voir si je dis vrai ou bien si je mérite des tomates. Moi, je dis qu'à peu près tout le monde au Québec ou la grande majorité des gens connaissent pas du tout les Autochtones. C'est ma conviction. Puis à date, il n'y a pas une église qui m'a prouvé le contraire. Allez-vous être celle qui allait me le prouver ce matin? On va voir. Bon, qui d'entre vous, à main levée, ont déjà été dans une réserve indienne? 50%. C'est à peu près, alors vous êtes dans la moyenne à date. Qui d'entre vous ont déjà mangé dans une maison chez un Indien, dans une réserve? Là, on tombe à... ça diminue. Qui d'entre vous serait capable... Là, expliquez-moi le point, il y en a tout le temps quelqu'un qui se met à tout dire, là, il brûle mon punch. Qui d'entre vous a déjà, qui serait capable de m'expliquer c'est quoi les pensionnats autochtones, les pensionnats indiens? Juste lever la main. Wouh! 1, 2, 3, ça vaut la peine de les compter. 4, 5, 6, 7, même pas une dizaine de personnes. On va y aller avec une facile. Qui d'entre vous sait qu'un Indien, ça paye pas de taxes? C'est drôle comment ça, c'est facile de le savoir, tu sais. Pourtant, les fameux pensionnats indiens, je vais en reparler plus tard, mais ça, c'est le dernier élément marquant de la culture qui est vraiment à l'origine de la condition sociale actuelle des communautés. Puis ça, il n'y a même pas une dizaine de personnes qui ont levé la main. Pourtant, c'est un élément qui a été médiatisé dans les deux dernières années assez incroyablement. Dans Actes 1-8, il parle des témoins. Il commence par dans Jérusalem, même ville, même culture, même peuple. La Judée, le même endroit, même culture. Ensuite, la Samarie. Ensuite, jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a une notion de gradation là-dedans. Puis cette notion de gradation-là, elle a quand même une certaine importance. La Samarie, c'était le même lieu, une autre culture, puis un élément de racisme. En réalité, les Autochtones au Québec, c'est un petit peu ça. On va arrêter les comparaisons là. Mais c'est dans notre province, c'est dans notre cour arrière, c'est une autre culture complètement différente. Puis veut, veut pas, on a des préjugés puis du racisme envers ces nations-là. Parce que premièrement, on les connaît pas. Mon but aujourd'hui, c'est de tenter de vous amener à vous mettre dans la peau de l'autre, de comprendre l'histoire à partir de leur point de vue à eux, de leur vision des choses, puis un petit peu clarifier certains points, ensuite parler du ministère qu'on fait. On va recommencer au début de l'histoire, parce que là, on est rendu à peu près 400 ans plus tard. En quelle date a été fondée l'Amérique? Y a-t-il un professeur d'histoire ici? 1534. Tout le monde le connaît. Ça, c'est ce que l'histoire enseigne. Jacques Cartier en 1534. Next. On va changer de diapositive. C'est ça, Jacques Cartier en 1534 qui a fait commencer ses premiers voyages. Ça, c'est pour le Québec, les Français. En réalité, il avait été précédé premièrement par les Espagnols avec Christophe Colomb en 92. Puis après ça, avec les Britanniques, avec John Cabot. Puis en réalité, il a été précédé par plein d'autres. Mais du point de vue francophone, au niveau d'histoire, on revient à l'autre avant, pour l'instant. C'est qu'en 1534, c'est Jacques Cartier vraiment qui a été le premier. Ouais, c'est pas très visible. Je sais pas de votre point de vue. Mais c'est en 1534, c'est Jacques Cartier qui a été le premier Français à mettre les pieds de là. Jacques Cartier, quand il a débarqué, on le verrait, c'est à la pointe de Gaspé. Il a rencontré des Indiens de deux nations distinctes. Soit les Micmacs, qui viennent de la région atlantique, qui étaient là pour faire de la pêche, principalement de la pêche en haute mer. Et les Iroquois, qui venaient, eux, de deux villages. Un qui s'appelait Hochelaga, qui était une petite ville sur l'île de Montréal. Là, Hochelaga, Maisonneuve, ça vient de là. Hochelaga, une petite ville qui comptait à peu près 2000 habitants, qui était, dans le fond, une ville de commerce. Et Stadaconé, qui était Québec, un autre point de relais qui appartenait aux Iroquois. Pourquoi les Iroquois y étaient avec les Micmacs à cette période-là, vers le mois de juillet? C'était justement pour être capable de faire du commerce de poissons. Fait que Jacques Cartier est descendu là avec ses 61 hommes. Gardez ça en tête, 61 hommes. Là, on vient déjà de parler d'une ville de 2000 habitants. Puis en réalité, il y avait Stadaconé qui était à Québec maintenant, qui était une autre ville aussi. Ils débarquent là avec 61 hommes. C'est assez marquant. Pourquoi je vais raconter cette histoire-là? C'est parce que ça reflète vraiment la façon dont les Européens, que ce soit les Espagnols, les Britanniques, les Français, avaient comme perception des Autochtones, comment ils les ont traités. Lui, quand il est arrivé, la première chose qu'il a faite, ils ont fait du marchandage, ils ont discuté pendant une couple de semaines. Il a rencontré un chef qui s'appelait Donnacona. Un autre nom de ville, qui était le chef, dans le fond, Stadaconé et Hochelaga, qui sont les deux villes principales. Eux, leur tâche, les Iroquois, ils voyageaient surtout entre les Grands Lacs, où se trouvaient les Wanda, en français les Hurons, et toutes les villes ou les communautés plus au nord, que ce soit les Atikameks, que ce soit les Innus, traduction montagnais. Vous allez trouver ça fatigant, mais au flash, je traduis plein de noms parce que on a la tendance à aller voir sur les noms que les Français ont donnés. Mais ces communautés-là, souvent, ces nations-là ont des noms qu'ils avaient déjà. Puis les Français leur ont donné d'autres noms. Comme les Hurons, c'était des Wanda. Puis les Montagnais s'appelaient des Innus. Pas des Inuits. Petite nuance. Fait que les Hurons, eux, c'était des agriculteurs complètement sédentaires qui vivaient dans des villes ou villages d'environ 1500 habitants qui pouvaient cultiver jusqu'à 5000 acres de terre. Et les Iroquois, eux, leur tâche était des commerçants qui voyageaient beaucoup entre les nations qui étaient au nord, qui étaient chasseurs-cueilleurs, changeaient de la viande contre du maïs et faisaient de la culture. Selon l'anthropologue Serge Bouchard, qui est celui qui est le plus avancé actuellement dans les études au Québec, il dit, estime que la population indienne et inuite, au moment de la colonisation, en Amérique du Nord, c'est-à-dire Canada, États-Unis, Mexique, comportait 50 millions d'habitants. Ils ont retracé plus de 500 nations distinctes dans ces trois pays-là actuels qui vivaient au moment que les colons sont débarqués. C'est du monde. Puis là, je vous ai parlé d'agriculture commerciale, de villes avec des milliers d'habitants. Si on va plus dans le sud, dans le coin du Mexique, où le climat était favorable, il y avait des villes jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'habitants construites avec des murs en pierre. On est très loin de l'image qu'on a appris souvent dans les livres d'école, où si tu vois un petit Indien à moitié tout nu qui vit en groupe de trois dans un petit tipi. Oui, il y en avait des nomades chasseurs-cueilleurs, mais en même temps, il y avait tout un système de vie qui était organisé, il y avait une économie, il y avait des populations, il y avait des villes. Puis notre Jacques Cartier, fidèle à sa, on va dire, culture européenne, pour être gentil. Lui, il débarque là avec 61 hommes dans ce jeu de quilles-là. Puis il a commis un geste, là on peut changer la... Il a commis un geste, ou plutôt il a fait de quoi, qui montre vraiment l'attitude qu'il avait. Hey, 61 hommes, ça aurait-tu été facile de les éliminer pour toute cette gang-là, là? On parle de gens habitués à voyager, qui étaient en forme physiquement, qui étaient habitués de combattre les éléments de la nature, de chasser. Et éliminer 61 hommes, ça aurait été une pichenote pour eux autres. Pourtant, Jacques Cartier, il a fait, après avoir passé sa semaine avec Danakona, les Iroquois, les Mi'kmaq, il a planté une croix sur la pointe de Gaspé, exactement à cette date-là. Puis là, les Indiens qu'il y avait là, selon les récits d'histoire qu'on a, ils ont dit, ça faisait une semaine qu'ils faisaient des échanges, fait qu'ils ont trouvé un moyen de dialoguer. Ils étaient pas, tu sais, ils se demandaient c'était quoi son bout de bois. Fait qu'ils ont demandé, c'est quoi ton bout de bois, tu sais. Puis la réponse que Jacques Cartier leur aurait fournie, c'est, ah, l'année prochaine, je vais revenir, comme ça on va pouvoir encore faire du marchandage. Ce qui était très naturel pour eux, c'était des commerçants. Fait que on va revenir, fait que cette croix-là va nous servir à savoir où se diriger avec nos bateaux pour venir accoster. La réalité, c'est que sur cette croix-là que Jacques Cartier a plantée, il y avait une belle petite inscription. Puis je vais vous la lire. Au nom de Sa Majesté le roi de France François Ier et de l'Église catholique, je prends possession de cette terre. Il faut avoir du culot, là. C'est comme si vous auriez une famille d'à peu près 60 personnes, puis moi, le fendant, je m'en vais chez vous, je me plante un piquette dans ta cour, puis je me dis, je suis chez nous. C'est à peu près ça. C'est à peu près l'équivalent, là, tu sais. Sauf qu'en plus, on les trompe, on leur ment, puis on déguise ça sous on est des bons amis, puis on vous respecte. Wow! C'est intéressant. De 1500 à 1850, ça a juste continué. Ça a été les mots pour décrire les périodes. C'est sûr, au début, les Autochtones étaient nécessaires pour apprendre à survivre contre le froid et tout ça. Mais rapidement, ils ont été de moins en moins nécessaires. Au fur et à mesure que les colons avaient acquis l'expérience et les connaissances nécessaires, il n'y avait plus besoin des Indiens. Fait que les mots qui caractérisent la période de 1500 à 1850, c'est génocide, extermination, esclavage. Oui, l'esclavage. Dans le sud, avant même que l'esclavage avec les Noirs commence, l'esclavage avait débuté avec les Indiens. Elle a fini l'esclavage avec les Indiens à cause des épidémies. Les Indiens mouraient tous, fait que là, il manquait d'esclaves. Fait que là, ils ont commencé à aller chercher en Afrique. Ensuite, les guerres, où est-ce qu'on les on les impliquait, une nation, embarque avec moi si tu veux garder ton terrain, puis on va aller battre l'autre. Puis là, les Britanniques et les Français, c'était un jeu de chat-souris, essayer de ramasser chaque nation de son bord contre l'autre sous promesse de protéger son territoire, ses affaires. Ça a été un jeu de même pendant les 350 premières années. Au bout de cette période-là de 350 ans, selon les études, entre 95 et 98 % des Autochtones en Amérique du Nord avaient été éliminés. On a passé de 50 millions à une centaine de mille. C'est assez incroyable. Ensuite, il y a eu des pressions qui venaient de l'extérieur. Fait que là, ils ne pouvaient plus les traiter n'importe comment et faire ce qu'ils voulaient avec. Fait que là, les politiques ont changé. On est devenu plus civilisé dans la façon de gérer la cause autochtone. Même si ce mot-là, cause autochtone, à ce moment-là, eux, ils voulaient l'enrayer. Donc, on parle de début de l'instauration des réserves, de la christianisation forcée, des pensionnats indiens, de la coupure de la culture, puis des traditions, puis des modes de vie. Tout dépendant, si vous regardez ça sous langue britannique ou sur langue française, les dates, ils changent. Les Britanniques étaient un petit peu en avance. Les Espagnols, eux autres, ils ont même pas eu besoin de commencer ça. Ils avaient quasiment tout tué. Fait qu'ils n'ont pas eu besoin de les assimiler. Mais les Britanniques étaient en avance sur les Français. En réalité, quand tu dis ça vraiment à large, entre les Espagnols, les Britanniques, les Français étaient ceux qui ont traité le mieux les Autochtones, en très gros guillemets. Ils ont trompé, on va arrêter ça là. Ils ont quand même trompé, mais c'est dans trois pays colonisateurs, c'est ceux qui les traitaient le mieux. En 1870, au Canada, c'est là qu'ils ont commencé les pensionnats indiens, ceux que personne connaît. Le nom de la politique, OK, se résumait en une phrase. Le député aux affaires indiennes de ce moment-là, un monsieur Campbell Scott, il l'avait résumé en une phrase, puis ça s'appelait « Kill the Indian in the child », tuer l'Indien dans l'enfant. Son but, lui, c'était que sur à peu près une à deux générations, ça veut dire 20 à 40 ans, toute l'affaire indienne n'existerait plus, qu'il serait complètement assimilé en 1870. Vous pouvez tourner la page. Au Québec, il y a eu 6 pensionnats, il paraît qu'il y en aurait un 7e, là, faut que je fouille, qui ont été créés. Le dernier à fermer, c'est celui qui est le plus proche d'ici, à La Tuque, en 1980. Qui était né en 1980? Il y en a qui commencent à être gênés, je pense, là. Faites-vous en pas, j'étais né aussi. Hein. C'est ça. Wow! Hey boy! Bouge plus. Non, reculez d'un encore, s'il vous plaît. Bon, non, laissez-le, tout le monde l'a vu. Non, c'est ça. En 1980, le principe était assez simple. À partir de l'âge de 4 ans, on trouvait où étaient situés les Indiens. Ceux qui étaient déjà dans les réserves, c'était facile. Mais pour tous ceux qui n'étaient pas encore enclavés dans des réserves, on trouvait les poches d'habitants, les groupes. On allait là avec un curé, un policier de la gendarmerie royale armée ou deux, un représentant des affaires indiennes. On débarquait tous les enfants en bas de 4 ans, on les enlevait tout simplement. On les amenait dans des écoles, ou ce qui est pensionnat, ou ce qui restait là. C'était géré conjointement par l'État, ça veut dire financé par l'État, et géré par les groupements religieux. Au Québec, c'était principalement catholique, comme vous pouvez le voir. Et du côté anglophone, c'était principalement anglican, presbytérien et autres protestants. Mais l'histoire, que ce soit du côté anglican ou catholique, est pas mal la même. On parle de sévices corporels, d'abus sexuels. Les jeunes, quand ils arrivaient, la première chose qu'on faisait, c'est qu'on leur coupait les cheveux. On leur enlevait tous leurs vêtements traditionnels. On brûlait le tout parce que c'était qualifié de sorcellerie. Ensuite, on les forçait à parler soit le français ou l'anglais, parce que ces gens-là arrivaient, ils parlaient habituellement une autre langue. Quand ils parlaient leur langue, ben il y avait des chevilles corporelles, ils mangeaient des coups de bâton. Ils étaient forcés de travailler dans ces pensionnats-là, même que beaucoup de même il y a des si vous allez sur certains sites internet là, les jeunes devenus ou plusieurs sites qui ont été consacrés maintenant depuis que c'est sorti cette histoire-là, vous allez voir il y avait même carrément des fois c'était quasiment des travaux forcés. La moyenne des gens supposément que c'était là pour les éduquer, mais la moyenne des d'études des gens qui sortaient de là était en généralement à peu près l'équivalent d'une deuxième ou d'une troisième année. Je sais comment c'était dans ces pensionnats-là, parce qu'actuellement, même dans la communauté, c'est la génération des grands-parents. Il y a 90 000 survivants actuellement au Canada, des pensionnats. Vous pouvez tourner la photo. Ça, c'est exactement un exemple d'un avant-après. On prenait un petit Indien, puis on essayait d'en faire un petit blanc. Comme j'ai dit, c'est la génération des grands-papas, des grands-mamans. Dans l'église même, à Ouacha, tout ce que je suis, tous ceux qui sont en cinquantaine, à peu près soixantaine, ont tous passé dans les pensionnats. Tous ceux que j'ai connus ont tous été abusés dans les pensionnats. Il y en a peut-être qui ne l'ont pas été, mais assez majoritairement, c'était très répandu. Physiquement, c'était généralisé. Mais sexuellement, c'était très, très, très courant. Tournez la photo, s'il vous plaît. En 2008, le 11 juin 2008, Stephen Harper a été le premier ministre, premièrement, à reconnaître que les pensionnats avaient existé. Deuxièmement, à reconnaître que c'était une politique d'assimilation planifiée. Et a fait des excuses à toute la nation autochtone. Pourtant, la plupart des gens ici, vous n'avez jamais entendu parler de ça du tout. Ça, c'est la base de l'histoire. On a passé très, très vite. Ça, c'est la base, aller jusqu'à 1980, de la société autochtone actuelle. T'sais? Belle histoire, bel héritage. Pourtant, je suis sûr que la plupart d'entre vous, quand vous entendez un chef indien paraffiner en baragouiner en français à la TV, puis dire, là, le gouvernement, là, c'est des crosseurs, puis il faut qu'ils nous donnent du territoire, puis donnent l'argent, dans votre cœur, dans votre tête, quand vous entendez ça à la TV, vous dites, gang de tip, sont sur le BS, puis ils devraient aller travailler au lieu de se plaindre, puis il faut qu'on leur donne de l'argent. Mais la réalité était complètement autrement, sauf que le monde ne le savent pas. Qui sont-ils aujourd'hui? Attendez, avant changer l'image. Non! Non! Partez pas ça. C'était un monstre à peine. Non. On va regarder un montage de photos avec une musique, si ça fonctionne bien. La musique, c'est a été écrite par un chanteur Innu qui vient de notre église. C'est un gars qui est converti depuis 1978. Il sait lire puis écrire. Mais c'est un homme dans la soixantaine qui a été dans le pensionnat aussi. Mais il sait pas lire ni écrire dans sa langue, mais il parle mieux sa langue que le français. Fait que vous imaginez, il joue de la guitare très, très bien, mais ne connaît aucun de ses accords. C'est assez intéressant. Fait qu'on est obligé de l'enregistrer pour faire des chants. Là. On l'enregistre, puis après ça, c'est quelqu'un d'autre qui écrit les paroles. Hein. C'est compliqué. Mais c'est pour vous montrer à peu près qu'est-ce que c'est. Mais c'est un très bon compositeur, c'est un très bon chanteur. Les paroles sont pour vous donner un aperçu, parce que vous comprendrez absolument rien. C'est les paroles qui ont été tirées du Notre Père. Le montage de photos, c'est des photos qui ont été prises à Ouachat, qui est une réserve urbaine à côté de cette île, et Obedjouan, qui est une réserve à Atikamekw, qui est carrément située dans le bois. Regardez bien les images, puis ça va bien, le son va fonctionner avec. Puis on se reparle dans 2 minutes. C'est beau, faut y aller.
winner. Wash good katay.
Belles photos. Hein? Ça, c'est juste des photos qui ont été prises sur la rue. Ça ne dit rien du quotidien en réalité, sauf que déjà, ça parle beaucoup. On a changé l'image. Les conditions, vous pouvez cliquer encore. Ils vont tout apparaître. La condition sociale actuelle des communautés. Ça, c'est le bout que si j'aurais commencé mon sondage-là, probablement la plupart des gens, vous en auriez su pas mal de brides. C'est ce qu'on entend parler. Sous-scolarisation. La moyenne canadienne de diplômés en secondaire 5 pour le Canada au complet est autour des 70%. Pour les réserves indiennes, la moyenne canadienne tourne autour de 30%. Et si on parle de réserves isolées au Québec, comme les trois réserves Atikamekw qu'il y a ici en Mauricie, les réserves Inuits à Côte-Nord, on tourne autour de 3 à 5% des gens qui réussissent à décrocher un diplôme de secondaire 5. Je viens de savoir qu'à Natashquan comme à Schefferville cette année, ils n'ont aucun gradué encore. Pourtant, c'est des jeunes, il y en a plein. Là. Ils se rendent pas là. Souvent, l'école est encore associée pour eux à de l'assimilation. Pour eux, un enfant qui va à l'école et qui s'instruit, c'est un jeune qui renie sa culture en partie. Fait que c'est très dur, pourtant ça pourrait les aider à se redéfinir. Pas à devenir des blancs, à se redéfinir. Alcoolisme et toxicomanie, ça tout le monde en entend parler. La dernière étude qu'il y a eu, et la seule étude qu'il y a eu sur la toxicomanie auprès des communautés Inuits sur la Côte-Nord, a été faite en 2008 par une travailleuse sociale que je connais. Puis dans le rapport qui a été dans pratiquement toutes les réserves, a fait des sondages avec tous les jeunes, de la tranche d'âge de 9 à 12 ans. Puis ce qui est sorti de ça, c'est que tout simplement qu'à peu près 75% des jeunes de 9 à 12 ans avaient déjà consommé des substances psychotropes, que ce soit alcool et drogue. Et malheureusement, 12% des jeunes de 9 à 12 ans étaient déjà considérés comme étant toxicomanes et alcooliques. Ça, c'est pour les communautés Inuits sur la Côte-Nord. Les Atikamekw puis certains les réserves algonquines, c'est très similaire au niveau des données. La criminalisation. Actuellement, juste les données fédérales, c'est sûr que je connais le plus parce que je travaille dans une prison fédérale. Au niveau des pénitenciers fédérales, ça veut dire des sentences de plus de 2 ans, chez les hommes, 20% des détenus sont des Indiens et des Inuits. Pourtant, les Indiens et les Inuits représentent juste 2% de la population canadienne. Ça veut dire qu'ils sont 10 fois plus incarcérés que les autres nations au Canada. Quand on va chez les femmes, c'est encore pire. C'est tout près de 30% des femmes dans les prisons sont des Indiennes et des Inuits. Si on va dans un niveau de sécurité maximum, ben là, on frôle le 100%. Le placement important d'enfants. Actuellement, au Canada, 40% des enfants en famille d'accueil sont des Autochtones. Que ce soit indien, inuit, métis, toute la grande famille, là, c'est large. Pour eux, les services sociaux et tout ça, les placements d'enfants, c'est juste un suivi des pensionnats. Ils ont juste changé la formule. C'est de même que les Indiens perçoivent ça. Fait que c'est dur de dire à une maman, faudrait que tu changes tes comportements, puis c'est pour ça qu'on t'enlève ton enfant, quand pour eux, ils sont restés sur la perception qu'enlever les enfants égale, on veut l'assimiler. T'sais? Je sais pas si vous comprenez la difficulté qu'il y a à ce niveau-là. Pourtant, les traitements sont pas d'argeux. J'ai sauté à abus physiques et sexuels. Il n'y a pas de statistiques, aucune donnée au niveau canadien. Il y a quelques petites données d'études faites par des groupes de travail social qui ont fait des études dans leur communauté ou des groupes médicaux, un pensionnat, dispensaire, petite nuance, médical dans une communauté qui a décidé de faire des études. Mais il n'y a rien au niveau canadien ou même provincial. Pourtant, ce qu'on voit, nous, du travail, c'est que la plupart des enfants qui arrivent vers l'âge de 12 ans et ont déjà été abusés. La plupart des adultes rendus vers l'âge de 30 ans deviennent des abuseurs ou sont déjà abusés. Ça, c'est la réalité qu'on a même dans l'Église. T'sais, on a nos gens de 60 ans qui ont été dans les pensionnats, qui ont été abusés. La plupart qui sont devenus alcooliques, toxicomanes et abuseurs eux-mêmes. Puis là, on a les générations qui poussent en arrière de ça, qui ont été abusés eux-mêmes. Et tout. Et là, c'est une chaîne qui se continue comme ça. Ils sont carrément en recherche d'identité. Ils ont perdu leur identité d'origine et n'en ont pas trouvé. Donc, l'identité actuellement qu'ils ont est, la pauvreté sociale qui les maintient. Donc, un Indien, c'est quelqu'un qui est sous-scolarisé, c'est quelqu'un qui parle sa langue autochtone le plus possible, qui connaît pas beaucoup de choses de tout ce qui est la culture blanche ou toute la technologie et toute la, je dirais, le niveau de connaissance qu'il y a. C'est quelqu'un qui est pauvre, c'est quelqu'un qui mange mal généralement. Tout ça pour eux, ça fait maintenant partie de leur identité, ça fait partie de leur normalité. La pression sociale négative, dans le fond. Pourquoi je l'écris là? C'est parce que là, on pourrait dire, ben là, ils ont juste à se prendre en main, se botter le derrière, se trouver un job, aller à l'école, faire comme un peu tout le monde. Sauf qu'il y avait un principe qui était d'ordre social, qui était dans les communautés avant, c'est-à-dire, eux, il n'y avait pas de loi écrite comme nous, on a, dans culture blanche. Tout était géré par une pression du groupe. Le groupe dictait, ça c'est bien, ça c'est mal, ça on tourne à droite, on va chasser à telle place. Et cette pression-là qui gouvernait le groupe existe encore dans les communautés. Et actuellement, elle est tout ancrée à essayer de protéger le peu de culture et d'identité qui leur reste. Donc, à toutes les fois qu'il y en a un qui veut sortir du lot, qui vient au Seigneur, qui se convertit, qui décide de prendre sa vie en main, qui décide qu'il veut éduquer ses enfants avec certaines valeurs, certains principes, qui veut décider d'aller à l'école pour avoir un certain niveau de vie qui est plus acceptable, mais la pression sociale, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va dire, mais c'est ça, t'es rendu que t'agis comme un blanc, toi. T'es plus un Indien. Fait que la pression sociale actuellement est très, très dure. Puis ce qu'il attend à faire, c'est que le phénomène d'autodestruction qui est lié à l'individu, elle l'amène au niveau collectif. Ce qui fait qu'on voit carrément des communautés au complet qui ont un pattern d'autodestruction massif. Prochaine diapositive. Tu peux les cliquer, les trois. Le travail auprès des Autochtones, c'est premièrement, de s'adapter à cette culture-là. La pire erreur qu'on peut faire quand on travaille avec des gens, peu importe la culture, c'est d'aller leur donner notre réalité, ou bien de débarquer puis de commencer à leur dire, hey, voici comment vous devez changer votre vie, sans les écouter, sans les regarder aller, puis sans les aimer. C'est de s'adapter à cette culture-là. C'est de s'impliquer aussi de façon relationnelle, un à un. C'est un travail de très, très longue haleine. Parce que j'ai dit juste avant, là, c'est une relation qu'il faut développer. Une relation, ça se développe pas facilement. Puis chez des gens qui sont habitués, qui sont en méfiance, cultiver un lien de confiance, c'est extrêmement dur, extrêmement long, puis ça prend quelques années. Le but, c'est de les amener à une confiance et une dépendance envers Dieu. La croyance en Dieu chez les autochtones, c'est naturel. Comme dans Romains 1, 29, là, il parle de que Dieu s'est manifesté à travers la création. Et chez les autochtones, des autochtones athées, ça existe pratiquement pas. La plupart des autochtones ont une croyance naturelle en un Dieu, un créateur, l'être souverain qui a tout créé la terre. Ils y croient même plus que la majorité des Québécois de souche. On va appeler ça de même, là. C'est naturel de croire en un Dieu. De savoir qu'ils sont des pécheurs, c'est pas si dur que ça. Ils savent. Ils savent qu'ils sont des tout croches. C'est leur perception, même si ça n'est une mauvaise perception à quelque part. De reconnaître Jésus comme le Sauveur, c'est pas là que c'est nécessairement le plus dur. T'sais, une fois que tu es rendu à cette étape-là, ça va. Là, d'y donner sa vie, d'accepter le cadeau de Dieu, de s'abandonner, de créer dans le fond une relation avec Dieu, comme on dit, c'est pas une religion qu'on prêche, mais une relation. La base d'une relation, c'est premièrement une confiance, la deuxième, la communication. Mais ces éléments-là sont inconnus. Sont incapables de faire confiance, sont incapables de s'abandonner, de dépendre de quelqu'un extérieur et même de Dieu. Ce qui fait qu'on a des croyants qui ont accepté le Seigneur il y a des dizaines d'années et qui marchent encore en boitant continuellement parce qu'ils ne viennent pas à ce point-là d'abandon face à Dieu pour leur vie. Là, on tombe vraiment dans l'organisme Renaissance autochtone. Raison d'être, pratiquement inexistant en français. De l'année 2007 jusqu'au début 2008, j'ai fait le tour des communautés francophones. Il y avait une petite organisation au Lac-Saint-Jean avec le couple d'Ilgat. Je ne sais pas s'il y en a qui les connaissent. Mais c'était les seuls qui étaient organisés en français. À part ça, il y avait les Marc Dana, que vous supportez, qui travaillent avec NCEM, qui est un organisme anglophone, et les Lara, qui travaillaient avec UIM, un autre organisme anglophone. Dans le fond, il y avait une dizaine d'organismes pour les Autochtones au Canada, mais tout en anglais. Puis la plupart de ces organismes-là avaient travaillé avec les Autochtones, mais il y avait un certain nombre de réserves qui ont jamais réussi à atteindre. Ils ont plus de 200 ans d'histoire d'évangélisation évangélique, tandis qu'au Québec, le plus loin qu'on remonte, c'est les années 80. Peu d'ouvriers. Quand ça a commencé en 2007, il y avait à peu près 6 personnes. Ça inclut les Dana et les Lara. Il n'y avait aucun organisme qui voyait la continuité et l'encadrement du travail. Puis, il y a discuté d'implantation. La majorité des communautés, là, ça, je vais l'expliquer vraiment en détail, mais que je parle du travail de Jean et Monique, qui est un très bon exemple. La plupart des communautés ont pas eu ou très peu eu d'évangélisation de fait. Et on peut pas débarquer dans ces communautés-là, dire « Bonjour, je suis Marc Levasseur, je suis un pasteur et je suis missionnaire, puis je m'en viens vous convertir. » Quand on connaît l'histoire des pensionnats, là, le taux de survie de cette personne-là est pas très élevé. J'exagère à peine. La plupart de ces communautés-là n'accepteraient pas du tout de missionnaires évangéliques, n'accepteraient pas même d'évangélisation proprement dite. Il y a des communautés qui sont complètement fermées et des histoires comme quoi des communautés ont littéralement chassé et mis dehors des groupes évangéliques qui ont été faits de l'évangélisation. J'en connais plusieurs. La prochaine acétate. Donc, nous, notre but d'un organisme, c'est de créer des cellules d'ouvriers dans chacune de ces communautés-là. Justement, la notion de collaborateur, c'est exactement ça. Comme vous voyez, on a enlevé le mot missionnaire. Ça n'existe pas dans notre langage. Nous, on travaille avec des collaborateurs et des ouvriers. qui, dans le fond, sont des missionnaires, toutes les deux. La différence, c'est qu'un collaborateur, c'est quelqu'un qui va avoir un travail séculier et qui, à côté de son travail séculier, va faire du travail missionnaire. On a des collaborateurs actuellement qui travaillent à Natashquan, sont professeurs dans la communauté. Ils enseignent dans l'école de la réserve. Ils ne peuvent pas être mieux placés. Pourtant, cette réserve-là n'a jamais eu d'évangélisation et on ne pourrait pas du tout aller faire une campagne d'évangélisation. C'est une des réserves les plus fermées à l'Évangile. Pourtant, ça fait 3 ans que les autres sont là et ont déjà des professions de foi. C'est juste qu'il faut changer la façon de travailler. Jean puis Monique ont commencé justement le travail à Wamontashi en étant collaborateurs. Ils travaillaient dans l'auberge qui est juste à côté de la réserve pendant les 3 premières années. Fait qu'ils ont pu créer un lien avec ces gens-là en n'ayant pas un titre de missionnaire ou de pasteur ou de peu importe, mais en étant Jean et Monique qui travaillent à l'auberge. Ensuite viennent les ouvriers. Les ouvriers, c'est une fois qu'on a un groupe de gens qui sont d'autochtones, qui sont acceptés le Seigneur, qu'on est rendu avec un petit groupe ou une cellule, qu'on est rendu soit à implanter l'Église ou que l'Église est déjà implantée. Là, on doit venir avec des ouvriers qui sont, dans le fond, comme Denis, Brigitte et Jean et Monique maintenant. Je vais en parler plus tard. On vise aussi à mettre en place des programmes pour soutenir les gens qui travaillent dans les communautés et développer des infrastructures. Ça, je vais en parler aussi plus tard. Prochaine diapositive. Il faut que je roule. Les communautés ciblées qu'on vise, comme je vous ai dit, au Québec, en été, il y a 59 communautés autochtones. Il y en a énormément, c'est presque une soixantaine. Mais il y en a 22 d'entre elles. C'est pas étonnant de voir qu'elles sont toutes situées le long du fleuve Saint-Laurent, où ce qui était la colonisation française. Ces communautés-là ont été colonisées par les Français. Ça veut dire que leur langue qu'ils apprennent à l'école, c'est le français, ou bien ils ont carrément sont toutes rendues francophones pour certaines d'entre elles, là, comme les ici vous en avez sur la rive sud de Trois-Rivières. La plupart sont tous francophones. Mais ça représente 35 000 Indiens. Puis dans toutes ces communautés-là, à travers le Québec, il y a moins d'une centaine de croyants. Il y a une seule église d'implantée, vraiment, avec un bâtiment, une charte d'église et tout, et c'est à Ouachat, sur la côte nord, où est-ce que je travaille, Denis Maisonneuve. Et il y a quelques petits groupes de croyants, dont à Wamontashi avec Jean et Monique, à Manawan avec les Lara, et quelques autres groupes avec les Dana, qui sont implantés, mais c'est tout. Il y a encore une dizaine de ces communautés-là qui n'ont jamais été évangélisées. C'est un champ vierge. Personne ne savait qu'il existait à peu près. Prochaine diapositive. Ça, c'est Denis et Brigitte Maisonneuve, notre premier couple d'ouvriers depuis juillet 2009, c'est-à-dire depuis un an bientôt. Ils sont supportés à temps plein grâce à des dons. C'est avec eux que j'ai débuté l'organisme Renaissance autochtone, puis on s'est étendu rapidement. Je veux dire, depuis 1997, sont impliqués à Ouachat. C'est pas d'hier, ça fait 13 ans. Pendant les 12 premières années, ils travaillaient 4 mois sa construction par année. Puis après ça, dès qu'il y avait assez de ses heures, il allait voir son boss, puis il disait, hey, dès que t'as plus besoin, faut que tu slaques un gars, là, je suis le premier, là, tu sais. Tout ce qu'il rêvait, lui, c'est pouvoir tomber sur le chômage pour pouvoir aller dans la communauté puis faire le travail que Dieu y avait mis à cœur. Il a fait ça pendant 12 ans de temps. C'est un gros sacrifice financier qu'il a fait. Il a vécu par la foi. Puis actuellement, il n'a jamais été aussi bien que maintenant. Il est supporté, il ne fait que ça à temps plein. Notre autre couple d'ouvriers, c'est Jean et Monique Couture, que vous connaissez la plupart assez bien, je crois. C'est pour ça que je disais que vous êtes impliqués dans le ministère autochtone sans le savoir ou en le sachant très peu. Depuis 2006, qui sont dans la communauté de Wamontashi. Ils ont été là-bas pour travailler. Dieu leur a donné un fardeau d'évangélisation. Ceux qui connaissent Jean, vous devez savoir que c'est pas trop dur pour lui d'évangéliser. C'est plus dur de l'arrêter. J'espère qu'il n'en voudra pas. Non. Là, actuellement, on est en train de ramasser un soutien financier pour les aider à faire ça à temps plein. Ils travaillent plus dans la communauté actuellement, sont dans une période de transition. Puis notre but, c'est vraiment qu'ils puissent œuvrer à temps plein à Wamantashi, parce que depuis janvier 2009, il y a un petit groupe qui se rassemble là-bas. Des fois quelques individus, des fois plus nombreux. C'est loin d'être stable. C'est une église, c'est une communauté qui a un très gros passé. Je veux pas rentrer dans tous les détails parce qu'on va être ici jusqu'à midi. Mais ils ont un travail qui se fait là. Et actuellement, je dirais qu'il y a une implantation d'église littéralement qui est en train de se faire grâce au travail de Jean et Monique. Et de quelques autres couples, dont Jean-Marc et Louise Clément, qui ont été visiter Jean et Monique à quatre reprises. Les Marc Dana, qui commencent à s'impliquer aussi avec Jean et Monique là-bas, là, lentement. C'est tous des gens que vous connaissez. Il y a vraiment un travail qui est en train de s'articuler là-bas. Vous pouvez tourner la diapositive. Puis ça, c'est leur magnifique église. C'est le confort, le luxe ultra. Ça, c'est un bâtiment que les Atikamekw ont payé eux-mêmes, en réalité. Des croyants Atikamekw qui ont été d'un pensionnat. Ils ont reçu des dons, des ristournes du gouvernement pour éviter les poursuites judiciaires pour les abus qu'ils ont subis. Ça, c'est la réalité. Il y a des croyants, justement, Atikamekw, qui nous ont donné une partie de cet argent-là pour qu'on achète ce bâtiment-là. Ce bâtiment-là est une ancienne école qui est située à côté de l'ancien presbytère. C'était une école qui était tenue par des sœurs et des frères catholiques, où des Indiens même ont assisté, ont séjourné et ont été abusés aussi. Actuellement, en tout cas, on n'a pas encore le financement pour aller de l'avant cet été, mais actuellement, on est en préparation pour le démolir à partir du 16 de mai et de rebâtir un bâtiment beaucoup plus adéquat avec de l'eau courante, pas trop de moisissures, un toit qui coule pas, parce que ça, c'est la réalité actuelle. Fait que si vous pouvez vraiment prendre en prière Jean et Monique et la communauté de Wamantashi. On est impliqué dans cette autre communauté, mais ce matin, mon but, c'était vraiment de vous parler de cette communauté-là, parce que ça vous touche de près, c'est des gens que vous supportez déjà, c'est des gens que vous connaissez. Puis j'aimerais vraiment ça que l'Église de Trois-Rivières, vous ayez vraiment des prières et un support envers ces gens-là, principalement dans la prière. Il y a un gros combat spirituel qui se mène là-bas, et c'est important que tous les croyants, même si vous impliquez pas autrement, que vous priez pour eux. Que Dieu brise les chaînes et toutes les résistances qu'il y a là-bas. Je vais arrêter là. De toute façon, je suis rendu au bout de mon temps. Merci beaucoup pour de m'avoir accueilli ce matin. C'était un plaisir.